Onde durable.
La santé des sols.
Une série pour comprendre les enjeux autour de la sauvegarde, la sensibilisation et la renaturation des sols.
Bonjour à toutes et à tous. L'étude des sols est au cœur de nombreux projets science et recherche participative, c'est-à-dire des projets impliquant des personnes non académiques dans la production de connaissances. Quels sont ces projets et comment assurer l'interconnaissance entre cette constellation de programmes? Nous en parlerons dans quelques minutes avec Henri Robin, ancien chercheur à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, référent sciences et recherche participative pour l'Association française pour l'étude du sol. Mais avant, direction Angers-Loire Métropole, avec Marion Bastide de Radio Campus Angers.
Et si vous participiez à recenser les plantes et les animaux que vous croisez près de chez vous? C'est le principe de l'Atlas de la biodiversité intercommunale, lancé fin 2023 sur le territoire d'Angers-Loire Métropole. Un inventaire participatif de la faune et de la flore, coordonné par Florian Lavener. On le retrouve au bord de l'eau.
On est au lac de Maine, on est à côté d'une lagune, donc on est sur une zone humide où on peut retrouver des crapauds épineux, des grenouilles vertes. Là, on a juste en face un iris des marais. Vous avez des saules. Là, au niveau des oiseaux, je vous avoue que je ne suis pas très calé forcément en oiseaux, mais on en entend. Et puis, l'objectif aussi, donc dans le cadre de l'Atlas de la biodiversité intercommunale, c'est pas grave forcément de ne pas connaître toutes les espèces, mais on peut faire de la reconnaissance via des outils qui facilitent cette reconnaissance. Donc, le principe des sciences participatives, c'est on prend une donnée, on enregistre donc soit un son, soit une image, soit une vidéo. Et à partir de ce son, cette image, cette vidéo, en fait, on fait une identification d'une espèce, ou en tout cas, on essaie de s'en rapprocher. Par exemple, pour les oiseaux, si on ne sait pas si c'est un héron garde-bœuf ou un héron cendré, donc des espèces aussi qu'on peut retrouver sur site, on peut juste préciser que ça fait partie de la famille des hérons et via des applications aussi comme e-naturalist. Donc on a des utilisateurs qui nous aident à l'identification progressivement. Et c'est pareil aussi sur les plateformes de Viginature. C'est interactif, on peut faire des commentaires, on peut affiner aussi les observations de chacun.
L'un de ces outils, c'est donc l'application e-naturalist, lancée depuis cette année dans l'agglomération angevine. Et c'est très simple.
Prendre une photo sur l'application. Je me rapproche donc de l'espèce, par exemple, à proximité. Ici, c'est une plante. Je la prends en photo. Je prends bien, du coup, la fleur. Hop. J'essaie d'en prendre autant que possible pour faciliter l'identification. Donc ici, je prends la plante en entière. Hop. Je prends les feuilles aussi en photo. Hop. Et ensuite, en fait, l'application elle me dit « Qu'avez-vous vu ?» Voir les suggestions. Donc, il y a une recherche d'espèces. Et là, on voit qu'on est sur le genre Silène. Donc, c'est un groupe d'espèces qu'on peut retrouver justement dans, communément dans le Maine-et-Loire et puis dans en Pays de la Loire. L'Ichnis fleur du coucou. Hop. C'est visuellement ce qui est le plus similaire. Je sélectionne. Hop. Je vérifie bien la date, l'heure à laquelle mon observation elle a été faite. J'ai une localisation qui m'est proposée, donc il faut impérativement aussi activer le GPS parce que sinon on n'a pas le point d'observation. Tac, je vérifie bien que c'est bien centré. Je valide. À partir de là, je peux valider mon observation. J'attends qu'elle se téléverse sur la plateforme. Ça prend un petit peu de temps. Mais une fois en fait qu'elle est téléversée, là je la mets dans une base de données open source à disposition d'autres observateurs, d'autres identificateurs qui utilisent aussi des clés de détermination pour déterminer l'espèce. Et là, si je retourne sur mon observation, donc j'ai une bulle de discussion où je peux voir mon identification et je pourrais voir les identifications d'autres observateurs. Je prends un exemple, on avait fait il n'y a pas si longtemps du coup une nocturne sur les lépidoptères, donc sur les papillons de nuit notamment, et on a fait une observation par exemple d'une noctuelle de la patience. Ici, on l'a saisie et en fait, les autres utilisateurs, ils ont bien confirmé que c'était bien une noctuelle. Et ça permet du coup de valider la donnée, de lui attribuer un statut attribut recherche pour confirmer que c'est bien la bonne espèce. Et ça va après dans des bases de données internationales open source qui sont réutilisables et réutilisées du coup aussi en France pour des projets de recherche, pour l'observation aussi de présence-absence d'espèces sur certains sites ou plus globalement aussi sur le territoire français.
Il est aussi possible d'identifier des oiseaux rien qu'en enregistrant leur chant. Là, c'est un rouge-gorge qu'on entend perché dans un arbre voisin. En plus de cette application généraliste, il y a aussi des protocoles plus spécifiques sur la plateforme Viginature. comme par exemple le Spipol pour observer les pollinisateurs, BirdLab pour les oiseaux ou encore Sauvage de ma rue pour les plantes sauvages en ville. Il y a même un programme appelé CUBES dédié à la qualité biologique des sols avec plusieurs protocoles.
Donc opération escargot, donc c'est un type de protocole qu'on peut totalement réaliser chez soi quand on a un jardin ou bien si on a aussi un espace vert en bas d'immeuble. On prend une planche ou une coupelle en argile qu'on pose, on attend du coup plusieurs semaines, donc environ un mois, et on essaie de faire des relevés, on soulève la planche à chaque fois pour regarder s'il n'y a pas des escargots qui se sont logés du coup sous la planche ou sous la coupelle. Il y a toute une petite grille aussi d'identification en tout cas qui est proposée pour aider à identifier les coquilles d'escargots. Mais on ne trouve pas que des escargots sous ces planches, on trouve aussi des araignées, on trouve des cloportes, on trouve d'autres coléoptères aussi potentiellement, des insectes xylophages donc qui mangent du bois et qui s'abritent dedans. Donc c'est le type en gros de protocole un peu ludique et intéressant qu'on peut proposer à la maison mais qu'on propose aussi à certaines écoles. Et on en a un autre qui s'appelle Noctambule. Donc là, on s'intéresse plutôt aux insectes qui sont actifs la nuit. On essaie de faire un espèce de petit piège à faune. Donc on prend un gobelet qu'on enterre à niveau. L'objectif, c'est que les insectes, donc tous les coléoptères, les araignées, les vers de terre aussi potentiellement, en fait, tombent dedans. Et on va mettre une espèce de petit chapiteau alors en carton, ou en tout cas en matériaux recyclés, pour éviter que l'eau ne s'infiltre dedans, donc pour pas que ce soit un piège mortel pour les espèces. Et là, on peut faire des relevés du coup par nuit, dans la semaine, pour regarder qu'est-ce qui est tombé dedans. Et pareil, on utilise la grille d'identification de Viginature pour savoir quel type en tout cas d'insecte est tombé dans notre gobelet. Et pareil, on peut le faire quand on a un jardin, un espace, en tout cas même en jardin partagé, jardin familial, c'est le genre de protocole qu'on peut mettre en place.
Les données collectées permettront de mieux connaître la biodiversité des sols.
C'est des données qu'on va transmettre du coup à l'échelle nationale et après on aura des bilans de la richesse des espèces qui sont trouvées à certains endroits. Et ça permet aussi de donner des gradients de la qualité biologique des sols. Plus on a d'espèces, une variété d'espèces importantes, plus les sols du coup sont d'une bonne qualité, ils sont aérés. Il y a aussi un intérêt aussi de production d'une certaine façon quand on pense aussi aux jardins familiaux et jardins partagés. Donc ça permet aussi de montrer une certaines formes de qualité écologique et biologique des sols. Et avec ces bilans, ça permet de faire cette analyse-là sur un point donné. C'est des choses qu'on a montrées aussi avec des protocoles comme Sauvage de ma rue, si je retourne sur la botanique, où on a pu montrer justement les gradients de variété d'espèces quand on est du coup en milieu urbain ou en milieu périphérique ou en milieu rural. Et en fait, tout ça, ça permet de donner un état des lieux, un portrait en tout cas du territoire à un moment T.
Il y a 2 ans et demi, l'Atlas de la biodiversité intercommunale recense plus de 15 000 observations faites par des habitantes et habitants du territoire. Elles ont permis d'identifier plus de 800 espèces, dont la vipère aspic, une espèce protégée aperçue dans les landes sèches de la commune d'Avrier. Rien que pour la flore, la démarche a permis d'identifier 35 nouvelles espèces de plantes par commune en moyenne. Pour Florian Lavener, elle présente un double intérêt.
Un des premiers volets, c'est vraiment la question en tout cas de la participation citoyenne et de l'acculturation. Donc d'avoir un petit peu plus de connaissances sur ce qui nous entoure. Il y a un côté retour un peu à la nature, mais on touche aussi des gens qui sont déjà sensibilisés, qui ont déjà une sensibilité. Donc aussi, ça permet d'affiner en tout cas les connaissances de chacun. À côté, il y a cet enjeu vraiment scientifique d'accumulation et de gestion de données, en tout cas naturalistes, sur le territoire. Donc ça se fait au niveau des associations, de structures aussi comme le Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire, par exemple. Et ça se fait à l'échelle nationale, ça peut se faire aussi à l'échelle locale pour connaître notre patrimoine, pour savoir quelles sont les espèces qui sont présentes et quelles sont les espèces à enjeu. On peut en trouver des espèces à enjeu en faisant des sciences participatives, notamment avec Innaturalis. On a pu trouver aussi des espèces comme l'agrillon de mercure sur certaines zones humides, par exemple. Donc, y a un intérêt à la fois de curiosité, d'apprentissage, et puis il y a cette question du l'habitant aussi peut aider à l'acquisition de données et d'informations, ce qui peut nous amener à avoir des clés de compréhension et puis des outils clés en main par la suite pour agir concrètement sur la biodiversité.
Angers-Loire Métropole pourra ainsi se baser sur ces données pour prendre des mesures afin de préserver cette biodiversité.
Donc, on peut avoir de la restauration d'habitat. Si On a par exemple de la fermeture au niveau de certaines zones humides, de mares qui sont en train de se refermer progressivement, donc on peut les réouvrir par exemple. On peut aussi réouvrir des landes, on peut avoir de la plantation aussi, de l'amélioration au niveau aussi de la gestion différenciée au niveau des communes. Ça peut être le cas quand ça fait partie du patrimoine, en tout cas de la commune. C'est des choses qui peuvent être proposées plus largement. Il y a de la sensibilisation surtout, quand c'est des espèces en tout cas qui sont à des endroits où il y a un fort enjeu. Là, on est au lac de Maine. Typiquement, si on a des espèces qui peuvent être trouvées, on peut mettre des panneaux de sensibilisation pour dire on a trouvé telle ou telle espèce à ces endroits-là, en tout cas du site, et de peut-être aussi amener le regard en tout cas de l'habitant là-dessus. Et vraiment, en enjeu de conservation, quand on a des espèces patrimoniales, par exemple, un des enjeux, ça peut être les espèces exotiques envahissantes, notamment pour la flore locale et la flore patrimoniale. Donc ça peut être de faire de l'arrachage, en tout cas de la gestion, en tout cas pour essayer de limiter la progression des espèces exotiques envahissantes à certains endroits ou pour maintenir en tout cas cette patrimonialité et cette exception-là sur certains sites.
Si vous voulez participer à cet inventaire de la faune et de la flore de l'agglomération angevine, vous avez jusqu'à fin 2026 pour saisir vos observations. Elles sont centralisées espèce par espèce sur une carte visible sur le site internet d'Angers-Loire Métropole.
Voilà pour ce reportage de Marion Bastide de Radio Campus Angers. Nous poursuivons maintenant la réflexion avec Henri Brobin, ex-chercheur de l'Institut des sciences de l'écologie et de l'environnement. Henri Robin, bonjour. Que fait-on quand on est, comme vous, le référent sciences et recherches participatives pour l'Association française pour l'étude du sol et surtout membre du conseil d'administration ?
Exactement, je suis membre du conseil d'administration de cette société savante et je réfléchis avec pas mal d'autres collègues du conseil d'administration à une façon dont on peut arriver à proposer une structuration de tout un ensemble, toute une constellation de programmes de sciences et recherches participatives.
Alors qu'est-ce que c'est les recherches participatives ?
Alors les sciences et recherches participatives, en fait, c'est une modalité originale de développer des connaissances et des savoirs sur des questions qui peuvent être parfois un petit peu négligées parce qu'elles n'étaient pas directement dans le champ d'intérêt des scientifiques. Et donc, on associe des scientifiques et des citoyens intéressés par la science pour conduire ensemble des projets de recherche scientifique en ayant, je dirais, une implication de A à Z depuis la question de recherche que l'on souhaite aborder ensemble, la définition d'une expérimentation et d'une méthodologie de collecte de données et d'informations, et enfin l'interprétation des résultats et leur formalisation. Ça peut prendre des formes très différentes, ça peut être des plaquettes qui expliquent ce que l'on a pu découvrir, mais ça peut aussi être des événements dans lesquels on mobilise finalement des modes d'expression d'un résultat scientifique qui sont un petit peu original. Par exemple, une pièce de théâtre, par exemple, une œuvre d'art qui peut être de l'art plastique, des tableaux, des peintures. Ça peut aussi être de la poésie, des récits sur les sols et la façon dont ils sont perçus dans le cadre de ce projet très spécifique qui a été développé pendant quelques années entre des chercheurs et des citoyens.
Comment on met en relation des chercheurs et des citoyens ? Est-ce que c'est des laboratoires de recherche qui doivent aller trouver écho à ce qui les intéresse auprès de citoyens ? Ou est-ce que c'est les citoyens qui souhaitent avoir un éclairage et qui sont prêts à s'investir sur un sujet précis et qui vont voir les labos de recherche ?
Alors, je dirais que c'est une démarche qui est vraiment réciproque et qui souvent s'appuie sur un médiateur. Donc les citoyens sont, qui s'intéressent à des questions concernant leur environnement sont souvent structurés en collectifs associatifs. Les chercheurs abordent des questions sur des espaces, des sites qui peuvent être en lien avec la question qui justement intéresse les citoyens. Et entre ces deux communautés, finalement, des acteurs politiques peuvent contribuer à les faire se rapprocher en mettant en place des appels d'offres pour amener les scientifiques à s'associer avec des citoyens, mais aussi de façon réciproque, amener les citoyens à ne pas avoir de crainte par rapport à l'implication et à la demande d'implication qu'ils pourraient faire à la communauté scientifique.
À vous entendre, on a l'impression qu'on est dans le cadre de politiques publiques qui utilisent la société civile. Est-ce qu'on est vraiment dans ce cadre-là ou c'est une vue d'esprit ?
Alors, je ne dirais pas que ces politiques publiques utilisent la société civile, mais ce sont effectivement des politiques publiques qui mobilisent des scientifiques pour répondre à des questions qui émergent de la société civile. Donc c'est vraiment plus, je trouve, une démarche de répondre à des questions qui se posent et essayer d'y répondre de la façon la plus efficace et pertinente possible en y impliquant des scientifiques qui peuvent accompagner un désir ou une envie de faire de la recherche. D'un autre côté, des scientifiques qui, quand ils travaillent dans des institutions publiques, sont un petit peu redevables vis-à-vis d'autres citoyens, des compétences qu'ils ont pu acquérir et l'utilité de transmettre ces compétences et surtout d'en construire de nouvelles avec les citoyens. C'est pas juste une médiation scientifique, c'est pas juste appliquer des résultats déjà acquis de la science, c'est vraiment une démarche de recherche à part entière où on va construire ensemble de nouvelles connaissances qui n'étaient pas encore existantes.
Ce type de recherche participative, est-ce qu'elles sont nouvelles dans le domaine de la culture scientifique ou c'est quelque chose qui est bien intégré notamment dans l'agro, dans toutes les recherches liées à l'agro ?
Alors, je dirais que impliquer des collectifs citoyens pour faire de la collecte de données, c'est quelque chose qui a déjà une certaine profondeur temporelle. Une vingtaine, une trentaine d'années, il y a des programmes qui émergent et qui ont émergé où on implique des citoyens pour collecter des données en très grand nombre sur des espaces relativement étendus. Mais ça, c'est finalement une recherche participative qui est plus une recherche contributive. On amène des citoyens à contribuer à une démarche scientifique qui est sous le contrôle de scientifiques et qui leur permet d'acquérir des connaissances qu'ils n'avaient pas. Donc là, on est vraiment dans une relation entre sachant et contributeur par rapport à un savoir qui va être amélioré. Là, on, dans les sciences et recherches participatives, c'est quelque chose qui émerge depuis quelques années. C'est quand même assez récent. On appelle aussi ça les sciences de la durabilité. Et c'est vraiment de mettre ensemble des acteurs extrêmement hétérogènes pour qu'ils formulent ensemble des questionnements scientifiques, qu'ils mettent ensemble au point une démarche scientifique. Et ça, évidemment, il y a un contrôle de la rigueur des expérimentations, de l'interprétation des résultats qui est confié aux scientifiques. Mais le questionnement, il est vraiment citoyen. Et ça, c'est des approches de recherche qui sont relativement originales, en ce sens qu'elles sont, elles impliquent vraiment la base de la société. Répondre à des questions qui émergent de la société, c'est quelque chose ça, qui est très ancien, ça a toujours fonctionné comme ça, la science, en particulier dans l'institut où je travaillais, l'Institut de recherche pour le développement. On laisse des questions émerger de la part des sociétés du Sud. Elles sont transmises par des instances politiques et diplomatiques à la communauté scientifique française et à cet institut en particulier, qui, avec des chercheurs des pays du Sud, va développer des nouvelles connaissances sur ces questions du Sud. Mais il n'y a pas, en fait, d'élaboration dès la base du questionnement scientifique avec les différentes parties prenantes, et surtout élaboration d'une méthodologie scientifique qui implique dès le départ les différentes parties prenantes. Et ça, c'est quelque chose qui est assez original et récent, oui, ça a quelques années, je dirais.
Donc, et selon vous, la prise en compte, si je comprends bien, de la parole des citoyens dans l'émergence des problématiques du sujet de recherche, qu'est-ce que ça apporte en plus au sujet traité ?
Mais je dirais que ça fait une connaissance scientifique qui est plus impliquée dans les questionnements que la société peut se poser. Et du coup, bah, je trouve que on se place sur des trajectoires qui sont un petit peu différentes par rapport à des craintes qui peuvent émerger, par rapport à des questionnements qui peuvent émerger et qui sont nécessairement un petit peu angoissants. On ne laisse pas les citoyens avec ces angoisses, mais au contraire, on les accompagne pour dire « Non, mais ces questions sont légitimes, posons-les nous ensemble, essayons de trouver des expérimentations ou des observations qui vont pouvoir répondre à ces questions et produire des connaissances que l'on n'a peut-être pas nécessairement complètement par rapport à cette question-là. On a des méthodes, on a des démarches, on a des connaissances évidemment et des savoirs, mais on en construit de nouveau grâce à cette interaction qu'il y a entre des acteurs plus nombreux que ceux qui sont habituellement impliqués dans une démarche scientifique.
Et pour finir, vous avez tout de suite commencé par parler de la restitution de ces recherches et de nouvelles formes de restitution, notamment artistiques. À la FES, l'Association française de l'étude des sols, vous organisez aussi une restitution, donc un focus. Vous organisez aussi un festival des sols en mai à Angers. De quoi parle-t-on et en quoi c'est important d'ouvrir les sciences à des restitutions, notamment par l'art ?
Alors ça, c'est vraiment une question qui est intéressante. Alors il y a plusieurs, niveaux. Il y a d'une part un niveau de médiation pour communiquer un résultat scientifique plutôt qu'une publication scientifique qui est finalement un support de débat interne à la communauté scientifique. Mais il y a d'autres médias qui doivent être imaginés pour communiquer au grand public le résultat d'une recherche scientifique. Non pas qu'il soit incapable de comprendre une publication scientifique, mais la publication scientifique, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt interne à la communauté scientifique. Donc c'est de la communication entre scientifiques pour faire évoluer des concepts, critiquer des résultats, etc. Pour ce qui concerne le grand public, c'est assez intéressant de trouver d'autres types de médiation pour que des résultats soient mieux appropriés, finalement, mieux compris par un ensemble d'acteurs qui ne sont pas nécessairement des scientifiques. Et donc là, ça peut être énormément de choses très très différentes. Un tout art peut être mobilisé pour exprimer un résultat scientifique et arriver à connecter un citoyen avec une question, la façon dont on peut l'aborder et les réponses qu'on peut y apporter.
Vous venez d'écouter La santé des sols.
Une collection de reportages produites par la CORLAB, coordination des radios locales et associatives de Bretagne,
et la FRAP, Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
En partenariat avec l'AFES, l'Association française pour l'étude du sol, dans le cadre du projet Ondes durables.
Ces reportages sont à retrouver en ligne sur ondes-durable.fr.
Ondes durables est un projet soutenu par l'État
dans le cadre de France 2030 et du dispositif Soutenir les alternatives vertes 2,
opéré par la Banque des Territoires, Caisse des dépôts.